Proverbes chapitre 4 versets 18 et 19. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat augmente jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. La voie des méchants est comme l'obscurité. Ils ne voient point ce qui les fera tomber. Bonjour à tous, frères et sœurs et amis. Aujourd'hui, l'étude que j'aimerais vous proposer, elle s'intitule « Perspective de rédemption pour la génération Internet ». Des perspectives de rédemption pour cette génération de l'Internet. C'est un sujet que j'ai à cœur parce que je fais partie de cette génération et je sais combien c'est important pour cette génération d'avoir des perspectives de rédemption. Pas d'avoir des perspectives de mondanité, des perspectives d'ambition, des perspectives d'autodestruction, mais des perspectives de rédemption. D'une rédemption qui nous est proclamée dans la parole de Dieu, la Bible. D'avoir de telles perspectives à une telle époque qui nous est déclarée comme étant la préparation, le temps de préparation pour la seconde venue de Jésus-Christ. D'avoir de telles perspectives en une telle époque, c'est notre grand besoin. Parce que comme Jésus l'a lui-même annoncé, eh bien, à ce moment même où il s'apprête à revenir, à ce moment-là, à cette époque-là, c'est là où les hommes et femmes seraient tant enclins à oublier cette vue, cette vision et à avoir des perspectives tout autres que celles d'une rédemption par Dieu en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle cela me tient à cœur et que j'ai à cœur ces perspectives-là pour cette génération-là, c'est parce que j'appartiens à cette génération et j'ai moi-même fait l'expérience de combien il est facile de perdre de vue ces choses-là même qui devraient accaparer notre vision et nos ambitions. Parce que Dieu ne dit pas à l'homme ambitieux de cesser d'être ambitieux, mais il tourne, il dirige nos affections vers ce qui est digne de nos plus grandes ambitions. Mais pour que nous puissions nous saisir de ce vers quoi il dirige notre attention, eh bien cela requiert de la foi et de l'obéissance. Et ces deux-là, ces deux éléments-là, ces deux activités-là doivent être saupoudrées de soumission. Et donc généralement, quand nous n'avons pas de foi ou que nous n'avons pas d'obéissance, c'est parce que nous n'avons pas cette soumission. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est que l'on puisse, d'une part, discerner notre grand besoin comme faisant partie de cette génération-là et comment satisfaire aux attentes de Dieu par rapport à ces besoins-là qui sont les nôtres, ces besoins spirituels. J'aimerais que on puisse aborder aujourd'hui le grand dilemme de cette dernière génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette génération Internet. Quand est-ce que l'Internet a vu jour? Au tournant du 20e au 21e siècle. Et je me souviens très très bien parce que j'étais à ce moment-là, étant né en 87, à ce moment-là, à ce tournant, j'étais à la courbe montante de mon adolescence et les technologies étaient en explosion. Et donc nous étions dans une époque de tourment technologique où les choses ne cessaient de changer, d'évoluer d'une année à une autre. Et ce qui était en vogue une année était passé de mode l'année prochaine et cela se répétait jusqu'à ce que nous en soyons arrivés à cette année-là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en 2020, où je pense que ça sera difficile de faire beaucoup plus élaboré que ces éléments technologiques que les hommes ont réussi à produire et à inventer. Mais dans ces années, 1996 à 2010, là, il y avait une montée fulgurante de la technologie. Et je me souviens, quand j'étais jeune, ça semblait être prometteur d'un si bel avenir. Un si bel avenir où les technologies seraient si grandioses, si productives de bien. Mais au fur et à mesure, comme nous allons le voir aujourd'hui, à travers les déclarations du Seigneur dans sa parole, au fur et à mesure, eh bien, les faits, tels que nous pouvons les discerner de nos yeux, ont rendu témoignage du contraire. Et maintenant que nous nous tournons vers sa parole, nous allons voir que ces choses étaient déclarées avant même qu'elles pointent le bout du nez et qu'elles s'affichent à nos yeux ébahis, mais plus tard déçus. Et je dis cela parce que je me rends compte que les générations suivantes, après la mienne, il y en avait aussi celles qui étaient antérieures à moi, qui ont pu avoir cette anticipation plus longtemps, eh bien les nouvelles générations sont encore plus la tête dans le sable, encore plus noyées et dans une certaine incapacité de discerner l'absurdité de ces technologies prometteuses qui, en fait, créent une condition morale dans le monde déplorable. Allez avec moi, allons ensemble vers les paroles de Daniel chapitre 12, verset 4. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, nous avons ici des paroles de l'ange qui s'adresse à Daniel et qui lui dit, à la suite de ce livre qu'il a écrit et qui contient de très nombreuses prophéties dirigeant directement l'attention de l'étudiant de la Bible vers les derniers événements du temps de la fin, après avoir donné toutes ces prophéties-là qui orientent l'étudiant de la prophétie vers ce temps dans lequel nous vivons, il dit, Daniel chapitre 12 verset 4, « Et toi, Daniel, cache ces paroles, toutes ces paroles qui lui ont été dictées, toutes ces paroles qu'il a écrites sous l'inspiration de l'esprit de prophétie. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. La connaissance prophétique a augmenté. C'est l'aspect le plus important de l'accomplissement de ces paroles-là, l'aspect de la connaissance des vérités prophétiques et bibliques. Cette connaissance-là a augmenté à partir du début du temps de la fin. Nous savons qu'en 1755, il y a eu ce grand tremblement de terre à Lisbonne qui faisait partie de ces signes précurseurs de ce temps de la fin et du retour de Jésus. Et ensuite, si mes souvenirs sont bons, nous avons eu en 1780 le jour noir qui a été surtout perçu dans la Nouvelle-Angleterre et à travers d'autres contrées aux alentours, et qui faisait aussi partie de ces signes prophétisés et annoncés par Jésus et confirmés dans l'Apocalypse chapitre 6. Et ensuite, nous avons eu le signe de 1833, la pluie des étoiles qui venait aussi annoncer le retour de Jésus. Et ici, nous avons aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette connaissance augmentée, et cette connaissance augmentée a tout particulièrement donné naissance au mouvement prophétique des trois anges, le mouvement adventiste, qui a commencé avec la prédication et l'œuvre de William Miller, et qui ensuite s'est poursuivi par ceux qui ont reçu la lumière sur le sanctuaire. Et ces choses-là ont progressé, la connaissance n'a cessé d'augmenter, tout particulièrement à partir du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse, ces deux livres se rejoignant et nous donnant main dans la main un message complet vis-à-vis des prophéties qui s'accompliraient dans les derniers jours. Et donc il dit à Daniel, cache ces paroles, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin, et alors plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Mais la connaissance n'a pas simplement augmenté vis-à-vis des prophéties. La connaissance a aussi augmenté vis-à-vis de la technologie, de l'industrie, des arts et métiers, du savoir dans tous les domaines. La connaissance a augmenté, n'est-ce pas? Et quel est l'effet attendu de cette connaissance qui a augmenté? Vous avez ici une épée à double tranchant, parce que d'un côté vous avez la connaissance prophétique qui augmente, qui a augmenté et qui augmente, en ce que les hommes, en parcourant ce livre et son compagnon, l'Apocalypse, sont illuminés. Et d'un autre côté, vous avez la connaissance qui augmente dans le monde vis-à-vis de tout ce qui n'est pas relié directement à Dieu. Et nous nous tournons vers toujours Daniel chapitre 12, versets 9 et 10. Verset 9, et il dit, « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. » Comme je vous le disais, c'est une épée à double tranchant, avec deux sortes de connaissances. Une connaissance qui est purement inspirée, prophétique, biblique, et qui vise à quoi ? À ce que plusieurs soient purifié, blanchi et éprouvé. Quand nous le lisons, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Et à la fin de ce verset, il est écrit « Les intelligents comprendront ». Donc vous avez ici une connaissance qui mène ces personnes à être purifiées, blanchies et éprouvées. Ils comprennent, et cette compréhension qu'ils reçoivent ici à travers, non pas simplement le livre de Daniel, mais le livre de l'Apocalypse et les témoignages de l'esprit de prophétie, à travers cette connaissance augmentée, ils sont éprouvés, ils en sont purifiés, ils en sont blanchis. Et ils comprennent, ils sont intelligents, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, ils sont sages. Ils sont sages. Mais, de l'autre côté, vous avez les méchants qui agissent avec méchanceté et qui ne comprennent pas. Et pourtant, il y a une multitude, une grande quantité de connaissances dans le monde. Mais si l'homme ne se saisit pas de la connaissance que Dieu a bien voulu augmenter à l'homme, eh bien, la connaissance qu'il acquiert, qu'il recherche, à laquelle il prend plaisir, elle le conduira à agir avec méchanceté et à ne pas comprendre. À ne pas comprendre ce que ceux qui sont sages et intelligents comprennent parce qu'ils sont prêts à être purifiés par Dieu, à être blanchis, à être éprouvés, à passer par le feu de l'épreuve. Ceux qui sont intelligents traversent cela. Et ils comprennent, mais ils en souffrent, mais Dieu les éprouve et les purifie. Et à quel autre développement spirituel et moral pouvons-nous nous attendre dans le monde pendant cette période du temps de la fin? Nous savons en tant qu'adventistes du septième jour que ce temps de la fin, ce n'est autre que 1798 lorsque le pape a été pris et emmené en captivité par ce fameux général Berthier sous les ordres de Napoléon. C'est ce que vous voyez ici, si je ne me trompe pas, au verset 11. « Et depuis le temps où cessera le continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. » Qui n'est autre que ce temps de suprématie papale qui a trouvé fin en 1798. Et ensuite, nous nous tournons vers Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 11 et 12. Un quel autre développement spirituel, un développement spirituel et moral auquel nous pouvons nous attendre dans le monde pendant cette période du temps de la fin? Quel autre développement, ou plutôt, quelle autre description de cette même réalité? Verset 11 de Matthieu chapitre 24, « Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. » Nous avons lu dans Daniel chapitre 12, verset 4, que la connaissance augmenterait. Et c'est tout particulièrement vrai de la connaissance prophétique du livre de Daniel. Mais cela s'applique aussi, comme nous le voyons, ne serait-ce que dans l'histoire, à la connaissance dans les technologies, comme je l'ai dit juste avant, l'industrie, les arts et métiers, et le savoir dans plus ou moins tous les domaines. À partir de ce début du temps de la fin, en 1798, vous avez une explosion, tout particulièrement dans les États-Unis d'Amérique, une explosion des technologies, une explosion des moyens de transport avec la locomotive, avec l'avion qui, je crois, le premier vol a eu lieu au début du XXe siècle. Et à partir de là, les avions de ligne ont vu le jour. Et tout cet accroissement de connaissances vis-à-vis des moyens de transport était au début destiné aux arts de la guerre pour le corps militaire et a ensuite été distribué, qu'on peut dire, pour le public. Avec maintenant, passé le début du 21e siècle, des Airbus à deux étages, etc. J'en passe les détails. Et donc, la connaissance a augmenté, c'est indiscutable. Elle a augmenté d'une manière décuplée, d'une manière où au début c'est multiplié, ensuite c'est multiplié par deux, par quatre, et les multiples se multiplient. Jusqu'à ce qu'on en arrive à le jour où nous vivons aujourd'hui. Mais que se passe-t-il ici? Dans les paroles de Jésus, tel qu'il nous décrit la situation, il nous dit que l'iniquité sera multipliée. Donc pendant que toute cette connaissance dans la science, l'industrie, les arts, le savoir, dans tous les domaines est extraordinairement décuplée, nous lisons que les hommes n'en sont pas améliorés, mais que l'iniquité est multipliée. Et donc, j'en reviens à moi-même, mes attentes de cette connaissance qui, indéniablement, dans le milieu technologique, augmentait et se multipliait. Mais en réalité, après avoir tant augmenté, ce que cela a fait, c'est que ce n'est pas la joie qui a augmenté de l'homme. Ce n'est pas le bonheur de l'homme qui a augmenté. C'est l'iniquité qui a été multipliée. Comme nous pouvons le voir, nous allons le voir après dans Ecclésiaste. Mais avant, nous voulons nous attarder sur le verset 13, le verset 13. Hors de tout cela, du milieu de tout cela, de cette connaissance augmentée qui semblait prometteuse mais qui, au final, déçoit. Au milieu de cette iniquité qui est multipliée et qui fait que l'amour de plusieurs, peut-être même notre amour, en tant que chrétien, notre amour pour Dieu se refroidit. Au milieu de tout cela, de cette connaissance qui en est allée jusqu'à, comme l'indique le titre de notre méditation, jusqu'à la création de l'Internet. Donc au début, c'était à des fins militaires, mais maintenant, c'est incontestablement un bien dont les hommes ont du mal à se passer, n'est-ce pas? L'Internet. Parce que moi-même, j'ai grandi dans cette augmentation des possibilités de l'Internet. Au début, c'était une connexion très lente et ça buguait et ça se coupait. Quand on avait tous la DSL. C'est pas fini d'ailleurs dans la campagne, c'est encore la DSL. Parce que quand bien même la connaissance augmente, vous aurez remarqué qu'elle augmente surtout dans les villes. Et c'est un fait qui nous renvoie vers notre méditation sur l'esprit de Caïn et la nécessité de sortir des villes. Mais c'est un autre sujet sur lequel nous avons déjà médité. Eh bien, ayant moi-même grandi, donc comme je le disais, dans cette génération Internet, eh bien, je réalise que vivre sans l'Internet maintenant? Cela devient une question. Je ne dirais pas que cela devient une nécessité, mais nous voulons savoir si nous pouvons le faire. Et si nous ne pouvons pas le faire, pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité aujourd'hui de ne pas se séparer du monde dans une telle mesure que nous les privons de la lumière que Dieu veut que nous reflétions aux autres. Donc dans ce sens-là, je ne pense pas que Dieu désire nous retirer cette bénédiction, parce que cela a été à de nombreux égards une bénédiction. Mais n'est-ce pas aussi, frères et sœurs, un danger? N'est-ce pas aussi, si nous ne savons pas nous en passer, que nous en devenons esclaves, une malédiction? Et donc, du milieu de tout cela, de cette condition de choses où la connaissance a tant augmenté que le bonheur de l'homme n'a pas été augmenté en parallèle, mais que l'iniquité a été multipliée, et bien au verset 13 nous lisons « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin, qui aura été éprouvé, qui aura été purifié, qui aura été blanchi, parce qu'il comprend, parce qu'il reçoit la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu, pas simplement des prophéties. Si ce n'était que les prophéties, je peux vous assurer qu'ils ne seraient que très peu éprouvés, mais là, il s'agit de personnes qui sont sages ou intelligents, comme c'était marqué, qui reçoivent la sagesse de Dieu, comme nous allons le voir plus tard, et qui sont prêts à être purifiés par cette parole. Ces personnes-là, ces intelligents-là, ces sages-là, comprennent. Et celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera racheté et délivré. Comme c'est marqué dans Daniel chapitre 12, verset 1, lorsqu'il s'agit du temps de détresse de Jacob, eh bien, il est marqué que le peuple de Dieu sera délivré. Après ce temps de détresse, à la fin de ce temps de détresse, il en sera délivré. C'est la promesse, mais cette promesse est donnée à une condition, c'est celui qui aura persévéré. Celui qui est sage, qui comprend, qui est prêt, qui veut bien comprendre. Parce que vous allez, en parenthèse avant de poursuivre, vous allez dans, nous revenons dans Proverbes chapitre 4, je crois. Proverbes chapitre 4 et verset 19. La voix des méchants est comme l'obscurité. Ils ne voient point ce qui les fera tomber. Donc, quel est le problème ici du méchant? Le méchant ne voit point ce qui le fera tomber. Pourquoi? Parce que sa voix est obscurité. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas comprendre. Ainsi, ne voulant pas comprendre, comme Jésus le disait aux pharisiens, puisqu'ils voient, mais qu'ils disent que ce qu'ils voient n'est pas mal, eh bien, ils en deviennent aveugles. Et c'est notre danger, frères et sœurs. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat quoi diminue, dont l'éclat augmente, jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection. Plus le jour grandit, plus le Seigneur donnera de lumière, et il nous incombe de répondre à la lumière en comprenant, et pas en fermant l'oreille, pas en décidant de rester dans l'ignorance. Dieu veut que nous soyons intelligents, que nous comprenions, même si cela nous fait souffrir, pas que nous tournions le regard, que nous fermions nos oreilles. Nous comprenons ici. Et donc, frères et sœurs, nous voulons examiner quelques travers, ou plutôt, de manière générale, les travers et les dangers de la nouvelle société click et touch and go. De ces choses qui se font si rapidement. De ces choses auxquelles nous avons accès si facilement. Nous voulons examiner cela. Pouvons-nous discerner des éléments et des caractéristiques de cet environnement du temps de la fin qui sont une entrave à notre développement spirituel et à notre intégrité chrétienne? Pouvons-nous discerner des éléments et des caractéristiques de cet environnement du temps de la fin qui représentent pour nous, pour notre développement spirituel et notre intégrité chrétienne, une entrave? Qu'est-ce qui représente une entrave pour notre développement spirituel? Qu'a produit cette surabondance de savoir et de possibilités technologiques? Qu'a produit cela? Qu'est-ce que ces choses ont réellement produit? Vous allez avec moi maintenant dans Ecclésiaste, le passage auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Ecclésiaste, chapitre 1. Ecclésiaste, chapitre 1, et versets 12 et 14 et 16 et 18, c'est celui qui nous intéresse. Mais ici, dans le contexte, vous avez le roi Salomon qui nous parle de son expérience. Et qui nous montre que lui, il a voulu goûter à tout cela. Et ce que cela lui a amené. Qu'est-ce qu'il en a retiré concrètement? L'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem. Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes afin qu'ils s'y exercent. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. Verset 16. J'ai parlé en mon cœur. Et j'ai dit, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science, ou en d'autres termes de connaissance. Et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. Mais j'ai connu que cela aussi était un tourment d'esprit. Car, notons bien, car avec beaucoup de science ou de connaissance, parce que c'est le sens du mot, car avec beaucoup de connaissance, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui accroît sa science ou sa connaissance accroît sa douleur. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous accroissons, que nous augmentons notre connaissance, notre science? Nous augmentons notre douleur. Pourquoi est-ce une douleur? Parce que connaître la sottise et la folie ne fait que créer un tourment d'esprit. Pourquoi est-ce un tourment d'esprit? Parce que vous en devenez séparé de Dieu. Vous vous séparez de Dieu non pas parce que Dieu a changé, mais parce que vous avez rempli votre tête, votre intelligence de bêtises, de folie, de sottises, de choses qui sont vaines. Quelque chose qui est vain, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est stérile, mais pas simplement cela. C'est quelque chose qui détruit. Les choses qui sont vaines dans ce monde, elles ne sont pas neutres sur nous. Elles détruisent, elles sapent les principes chrétiens de celui qui s'y adonne. Donc, retirons cette leçon qu'il nous donne. Qu'est-ce qu'il a connu après avoir appliqué son cœur à connaître pas simplement la sagesse, mais la sottise et la folie? Il a connu que cela aussi était un tourment d'esprit. Parce qu'avec beaucoup de science ou de connaissance, il y a beaucoup de chagrin. Et donc nous voyons aujourd'hui que la connaissance dans le monde a augmenté. Que les hommes ont augmenté leur chagrin et leur douleur. Pourquoi ? Parce que cette connaissance n'est pas acquise, n'est pas utilisée pour servir Dieu. Cette connaissance n'est pas acquise, je répète, n'est pas acquise, n'est pas utilisée pour servir Dieu. Et pour cette raison même, cette recrudescence de connaissance ne fait qu'accroître le chagrin et la douleur de l'homme. Quoi qu'on en fasse, tant que cette connaissance n'est pas une connaissance qui est en harmonie avec la connaissance de Dieu et la sagesse de Dieu, et n'est pas une connaissance qui est recherchée, qui est produite, qui est acquise pour servir Dieu, pour aimer Dieu, cette connaissance ne sera productive que de douleur. Voilà ce que cette connaissance produira. Elle produira peut-être l'excitation au départ, un peu comme le Coca-Cola. Elle produira peut-être une sorte de satisfaction au départ, comme le Coca-Cola ou le sucre blanc. Mais à la fin, le vrai fruit de cette connaissance, c'est la douleur, c'est le chagrin, c'est la séparation d'avec Dieu. Voilà les travers, les dangers et les tourments de la nouvelle société Click et Touch and Go et Swap sur la tablette. Si cette connaissance-là n'est pas recherchée, n'est pas produite, n'est pas acquise avec Dieu à l'esprit, je précise, avec Dieu à l'esprit, ce sera vain. Ce sera vain, ce sera pas simplement neutre, ce sera vain destructeur. Ce sera vain, futile, stérile et dangereux. Avilissant. Voilà les mots qui décrivent la réalité qui a lieu et dont nous faisons tristement l'expérience lorsque nous pensons que nous avons besoin de retraverser l'expérience que Salomon a traversée dans sa séparation d'avec le Seigneur. Et donc, je réitère la question, qu'a produit cette surabondance de savoir et de possibilités technologiques ? L'autre réponse, nous la trouvons dans Proverbes chapitre 4, verset 19, que nous venons de lire juste avant. J'ai pris un peu de l'avance sur notre méditation. Proverbes 4, verset 19, « La voix des méchants est comme l'obscurité, ils ne voient point ce qui les fera tomber. » Cela a créé cette surabondance de savoir et de possibilités technologiques a créé l'obscurité spirituelle et morale de telle manière que le méchant ne voit point ce qui le fera tomber. Et maintenant, nous tournons vers 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Que connaît le Seigneur? Il connaît, écoutons-le. Le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Nous avons ici des personnes qui ont une science, qui ont une sagesse, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de ce monde. Et Dieu sait que les pensées de ces sages-là, de ces sages mondains, leurs pensées sont vaines. Hein, vous avez peut-être remarqué, de nos jours, il y a beaucoup de présentations de sagesse. Vous avez peut-être été confronté à ces TED Talks ou quoi que ce soit. Il y a tellement de choses, ça ne sert à rien que je fasse une liste parce qu'il y en aura probablement le centuple en plus. Ces hommes, ces personnages, ces présentations, ces vidéos, ces visions, ces hommes, le Seigneur connaît que leurs pensées sont vaines. Et donc, si leurs pensées sont vaines et que ces hommes produisent un format vidéo de leur sagesse, de leur science, de leur connaissance qui est, selon Dieu, qui seul est sage, vaine. Est-ce qu'il est sage pour nous de visionner, d'écouter de telles personnes, de tels organismes, de telles entreprises, quoi que ce soit, de telles chaînes, comme on appelle aujourd'hui? La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et donc, il ne faut pas que je m'abuse, dit le Seigneur, que personne ne s'abuse soi-même, que personne ne se trompe lui-même par des mauvais raisonnements. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, dit-il. S'il pense être sage en ce monde, selon la sagesse de ce monde, s'il pense que la sagesse de ce monde va le rendre sage, le Seigneur dit quoi? Qu'il devienne fou pour devenir sage. Vraiment sage. S'il veut vraiment devenir sage, il va falloir qu'il devienne fou selon la sagesse de ce monde, afin qu'il devienne vraiment sage selon la sagesse de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement, frères et sœurs? Concrètement, j'attire votre attention vers cette pensée que très souvent, nous nous approchons ici du cœur de la question. Mais petit à petit, nous nous en approchons petit à petit. Très souvent, la sagesse, la connaissance qui nous pensons nous sera profitable se trouve être la source de notre chagrin et de nos angoisses. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Elle semblait profitable. Elle semblait désirable. Tout comme le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal semblait profitable et désirable à Ève. Mais qu'en a-t-elle récolté en résultat de son acte qui lui semblait si banal ou qui lui semblait si prometteur? Elle en a récolté, elle en a moissonné la chute. La chute, elle en a moissonné quoi? Le péché. Elle en a moissonné la séparation d'avec Dieu. Et il y a ici un adage d'un auteur, d'un poète anglais qui s'appelle Thomas Gray, qui dit « Where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise », qui se traduit comme cela « Où l'ignorance est la béatitude, il est fou d'être sage ». Donc vous pouvez le comprendre dans le contexte de notre étude biblique que là où Dieu prend plaisir à ce que nous soyons fous ou ignorants vis-à-vis des choses de ce monde, eh bien c'est une folie pour nous que de vouloir en devenir sages. Nous voulons devenir sages des choses qui, aux yeux de Dieu, sont une folie. Et donc, vous voyez, nous arrivons à bien distinguer les lignes de démarcation entre la sagesse de Dieu et la sagesse du monde, qui est une folie aux yeux de Dieu. Et l'équivalent français de cet extrait du poète, c'est le proverbe « moins on en sait, mieux on se porte ». Alors, faut faire très attention parce que c'est un proverbe et il ne sort pas de la parole de Dieu. Mais si vous le mettez dans le contexte de ce que nous venons de lire, cela a un sens dans le sens où « moins on en sait de la sagesse du monde et mieux on se porte ». Moins on en sait, mieux on se porte. Il faut faire attention parce que le tranchant inverse, c'est de croire que ce qui est l'esprit d'ailleurs de l'homme méchant et rebelle, c'est de croire que moins on en sait sur la volonté de Dieu, mieux on se porte. Ce qui est faux. Parce que moins nous en savons sur la volonté de Dieu, afin de ne pas la pratiquer, la mettre en pratique, et plus nous sommes dans l'obscurité. Alors certes, nous avons peut-être moins de souffrance vis-à-vis de cette épreuve du feu dans lequel la parole de Dieu nous plonge lorsque nous sommes confrontés à la volonté de Dieu d'une part et notre volonté de la chair d'autre part. Peut-être que, en étant dans l'obscurité de la voix des méchants, nous ressentons une sorte de soulagement et nous pourrions être porté à penser que nous portons mieux parce que nous en savons moins sur cette sainte et élevée, cette sainte volonté de Dieu élevée et noble au-dessus des cieux. Mais c'est faux. C'est faux. C'est vrai dans l'autre sens. C'est vrai dans le sens où moins nous en savons, moins nous sommes colorés, moins nous sommes entachés par la sagesse de ce monde, et mieux nous nous emportons. Et plus nous serons à même d'apprécier la parole de Dieu et la sagesse qui vient de Dieu. Et donc, frères et sœurs, quels conseils nous sont donnés pour faire face aux dangers et aux pièges de cette génération Internet? Quels conseils trouvons-nous dans la parole de Dieu pour affronter ces dangers et ces pièges et y résister? Nous tournons vers Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4. Et verset 20. Directement en lien avec cette description de la voie des méchants qui est comme l'obscurité, de ces hommes qui ne voient point ce qui les fera tomber, Dieu nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. Que devons-nous faire si nous ne voulons pas marcher dans l'obscurité? Si nous voulons être sur le sentier des justes, pour que la lumière resplendissante augmente de jour en jour dans notre expérience, il nous faut être attentifs aux paroles de Dieu. Être attentif aux paroles de Dieu, comment? En ne pas les laissant s'éloigner de nos yeux, en les gardant dans notre cœur. Et directement en lien avec cela, verset 23, nous voulons garder les paroles de Dieu dans notre cœur et il nous faut le faire si nous voulons résister, faire face aux dangers et aux pièges au travers de cette génération Internet. Et de toutes ces tentations qui sont liées à cette nouvelle société. Verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Garde ton cœur, Verset 24, éloigne de toi la perversité de la bouche et la fausseté des lèvres. Que tes yeux regardent droit et que tes paupières se dirigent devant toi. Balance le chemin de tes pieds afin que toutes tes voies soient affermies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, retire ton pied du mal. Voilà les conseils de Dieu pour notre rétablissement et notre affermissement. Que nous dit-il? Éloigne de toi la perversité de la bouche et la fausseté des lèvres, que tes yeux regardent droit, que tes paupières se dirigent devant toi, qu'elles ne regardent pas la perversité de la bouche, la fausseté des lèvres, les attirances de gauche, les attraits de droite. Et ces choses, frères et sœurs, il convient pour nous d'appliquer ces choses lorsque nous marchons dans la rue. Absolument, absolument. Lorsque nous conduisons, que nous traversons des régions un peu plus peuplées, et qu'il y a plus d'activité humaine, il convient pour nous à ce moment-là de pratiquer ces choses du verset 25 à 27, du verset 23, du verset 20, d'être attentif à la parole de Dieu, de garder ces paroles dans notre cœur. Il convient à ce moment-là de chercher à appliquer la parole de Dieu dans ces circonstances. Mais ce sont aussi des conseils qu'il nous faut appliquer dans notre relation à l'Internet. Parce que j'ai remarqué, frères et sœurs, que la tentation est très grande d'établir une sorte de démarcation entre l'application de la parole de Dieu à la vie physique de tous les jours, à laquelle nous sommes habitués, et la vie virtuelle. La vie virtuelle, c'est un peu comme une zone grise dans notre intelligence. Parce que c'est virtuel, et donc nous avons l'impression, une mauvaise impression, qui est inspirée par le diable. Que cette vie virtuelle, eh bien, elle est difficilement harmonisée avec la parole de Dieu. Je m'explique. Que cette vie virtuelle, nous avons l'impression qu'il serait compliqué ou plutôt, nous sommes tentés à ne pas appliquer les préceptes et les conseils clairs et tranchants de la parole de Dieu sur notre vie virtuelle. Parce que notre vie virtuelle représente aujourd'hui, pour la génération Internet, une si grande partie de notre existence. Et donc, notre besoin, notre grand besoin, c'est de laisser le Seigneur appliquer ses paroles à notre expérience virtuelle. Lorsque je parle de la vie virtuelle, il est simple, c'est simple. C'est lorsque tout ce qui a trait à la vie que nous menons à travers le clavier et la souris et l'écran tactile. C'est une vie virtuelle parce que nous touchons rien d'autre que des outils intermédiaires. Nous ne touchons pas le panier, nous ne touchons pas la vidéo, nous la cliquons. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est sur ces aspects-là qu'il nous faut accepter, consentir à appliquer la parole de Dieu pour que la parole de Dieu trouve toute son ampleur dans notre vie et qu'il n'y ait pas des petits carrés séparés que nous isolons de l'effet pénétrant de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Éloigne de toi la perversité de la bouche. Est-ce que j'écoute cela? Est-ce que je regarde cela? La fausseté des lèvres. Est-ce que j'écoute cela? Est-ce que je regarde cela? Ne te détourne ni à droite ni à gauche, retire ton pied du mal. Et verset 23, nous y revenons. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Plus que toute autre chose qu'on garde. À quel point devrions-nous garder notre cœur? Plus encore que ton compte en banque. À ce point-là, tu devrais garder ton cœur. Plus encore que ta voiture, tu devrais garder ton cœur. Plus encore que ton téléphone, tu devrais garder ton cœur. Plus encore que ta connexion Internet. Tu devrais garder ton cœur plus encore que toutes ces choses-là. Plus que toute autre chose qu'on garde. Plus encore que tout cela. Garde ton cœur. Comment? Vous allez avec moi dans le psaume 119. Le psaume 119, verset 9. Verset 9 à 11. Comment garder mon cœur? Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? Ou la jeune femme? Ou l'homme marié? Ou la femme mariée? Comment rendra-t-il pure sa voix? Ou l'homme qui est dans sa quarantaine, qui est célibataire, peu importe. Comment rendra-t-il pure sa voix? Comment? Dans cette génération du temps de la fin, plus encore cette génération Internet, pour avoir une perspective de la rédemption. Parce que si nous ne gardons pas pure notre voix, que nous ne gardons pas notre cœur plus que toute autre chose que l'on garde, nous perdons de vue notre perspective d'une rédemption. De notre rédemption, de notre salut complet, final. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. En prenant garde à ma voix selon la parole du Seigneur. Donc, il nous incombe, frères et sœurs, de garder ces choses en mémoire que nous avons contemplées aujourd'hui, en rapport direct, en lien direct, avec notre relation aux événements quotidiens de la vie. Notre relation aux personnes que nous fréquentons, notre relation à l'Internet que nous utilisons. C'est en y prenant garde, selon ta parole, que l'homme rendra pure sa voix. Je te cherche de tout mon cœur, de tout mon cœur, je te cherche. Voilà comment garder mon cœur, plus que toute autre chose qu'on garde. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Ne me laisse pas égarer loin, comme une brebis qui a perdu le troupeau. Oh, elle est loin, elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien. Et donc, le brouillard, le noir, la pluie, elle est perdue. Comment ne pas arriver là? Voilà le langage de la brebis qui ne va pas se perdre. Je te cherche de tout mon cœur. J'écoute chaque petit instant de ta voix, chaque petit ton, chaque infime son de toi, j'écoute. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur. Voilà comment garder mon cœur. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas m'égarer loin de toi. Serré ta parole dans mon cœur. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen, frères et sœurs. Il n'y a pas de magie à cela. Mais il y a des miracles lorsque nous obéissons, lorsque nous exerçons notre foi, lorsque nous nous soumettons au Seigneur. Et maintenant, dans le psaume 101, je me permets d'aller plus en détail ici parce que je n'ai pas vraiment d'auditoire. Hein. Vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo. C'est une vidéo que vous pouvez regarder notamment. je pense, par la grâce de Dieu, que vous pouvez visionner cela. Mais attention, frères et sœurs, vous savez ce qu'il y a à droite et à gauche. Ne te détourne pas, ni à droite, ni à gauche. Le psaume 101. 101, versets 3 à 7. Et là, frères et sœurs, là, nous sommes éprouvés. C'est ce à quoi je faisais allusion au début, vis-à-vis de ces paroles de Daniel chapitre 12, versets 9 et 10. Où nous avons des personnes qui comprennent, les intelligents, les sages, ceux qui brillent, ceux qui écoutent la parole. Et ces personnes-là sont éprouvées, purifiées, blanchies. Par quoi? Par le sang de l'agneau. Oui, oui. Mais comment en pratique? Par l'eau de la parole. Blanchie, lavée par l'eau de la parole. Hein? Lorsque vous lavez un vêtement, vous y mettez un agent blanchisseur. Mais l'agent blanchisseur a besoin d'être remué avec l'eau. Et c'est la parole qui fait cela. La parole, elle va imprégner le sang de Jésus-Christ en nous. Le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne connaîtrai pas le méchant. Je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils demeurent avec moi. Celui qui marche dans l'intégrité me servira. Celui qui en use de tromperie n'habitera point dans ma maison. Celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Il ne sera pas sur mon écran. Vous voyez? Appliquez cela, appliquons cela à la lettre dans notre vie virtuelle également. Vous n'allez pas inviter un buveur endurci chez vous. Vous n'allez pas inviter un menteur endurci chez vous. Et donc, nous ne devrions pas faire la même chose, faire cela dans notre vie virtuelle. Inviter ces personnes chez nous à travers les enceintes et l'écran, le moniteur. Qui est-ce que j'inviterai chez moi? J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Ceux qui sont fidèles à Dieu, afin qu'ils demeurent avec moi. Ils pourront demeurer avec moi chez moi à travers mon moniteur et mes enceintes. Ceux-là, ils peuvent venir chez moi. Ceux-là, je les invite. Les autres, ils ne doivent pas entrer chez moi. Vous comprenez? Cette application ferme et rigide dans la vie virtuelle. Là, c'est ici que je dois préciser une chose, frères et sœurs. Ces paroles-là, que nous venons de lire, dans le psaume 101, versets 3 à 7. Il nous faut appliquer avec tact, avec compassion et avec fermeté ces paroles-là vis-à-vis des personnes que nous sommes amenés à fréquenter dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, il nous faut appliquer ces choses avec compassion, avec tact, tout en étant ferme, tel que le faisait Jésus, notre exemple. Mais là, vous allez voir, je fais une distinction. C'est très important que vous notiez cela, que nous notions cela. Mais ces paroles-là, vis-à-vis de notre utilisation de l'Internet, vis-à-vis de notre vie virtuelle, qui est tout à fait différente parce que elle ne communique pas les traits du visage ou le ton de la voix dans ces aspects-là. Il nous faut pratiquer, appliquer ces paroles avec une fermeté rigide et déterminée quand il s'agit de notre utilisation de l'Internet. Il faut examiner vraiment, frères et sœurs. Il n'y a pas de tact, il n'y a pas de temps pour le tact. Où nous faisons toujours preuve de tact, mais lorsque vous êtes confronté à ces tentations de l'Internet, il faut être rigide, ferme, parce que un clic, ça se fait si vite, comprenez? D'où la nécessité, parce qu'il n'y aura personne que vous pouvez vexer ou offensé par votre échappée et votre détermination à ne pas regarder ce qui est mauvais. Comme il l'a dit, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne le ferai pas sciemment, je ne le ferai pas volontairement, de manière délibérée. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » J'ai en haine la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne permettrai pas à moi-même de m'enticher de ces choses. Je ne permettrai pas à ces choses de s'attacher à moi. Que je sois moi-même attaché à elles. Que j'en devienne esclave. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Voilà comment nous pouvons le faire. En ne mettant rien de mauvais devant nos yeux. Je garde mon cœur, comment? Mon esprit, mon intelligence, mon lobe frontal, là où les décisions sont prises vis-à-vis de notre existence spirituelle. Je garderai l'avenue de mes sens. Je garderai mon ouïe, ma vue, mon odorat et mon toucher et tout ce qui a à voir avec le goût, mes papilles. Je ne vais pas aller manger du piment fort, hein, parce que c'est contraire à nos principes. Mais de la même manière, je vais garder aussi ces fenêtres de l'âme. Parce que c'est comme cela que je garderai mon cœur. Comment est-ce que je ferai cela? Je retrancherai celui qui médit en secret de son prochain. Je ne supporterai point celui qui a le regard hautain et le cœur enflé. Comment est-ce que vous faites en pratique avec des personnes qui sont hautaines comme cela? Eh bien, je vais vous dire, frères et sœurs, j'essaie de diriger leurs activités, tant que je peux, vers ce qui profite. Et si je ne peux pas, eh bien je m'écarte. Mon expérience m'a montré que si des personnes sont endurcies, de toute manière, elles ne veulent pas votre présence. Donc, vous ne supportez pas ces personnes en vous écartant. Mais lorsqu'il s'agit de votre utilisation de l'Internet, qu'allez-vous faire? Vous allez les retrancher, vous coupez cela, clic. Comprenez? Je le retranche, je quitte cela. Je ne regarde pas cela. Je ne voulais pas voir cela. Je ne supporterai pas celui qui a le regard hautain. Au revoir. Je coupe cela. Je n'écoute pas cela. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il s'agit ici d'un vœu et d'une détermination. Et il nous faut, frères et sœurs, faire ces vœux-là et mettre en activité notre détermination pour mettre en pratique ces vœux envers le Très-Haut. C'est indispensable. Nous examinons ici les perspectives pratiques de notre rédemption concrète et réelle des péchés qui caractérisent, qui caractérisent notre génération présente. Ce sont les péchés qui caractérisent notre génération présente et qui ont créé tout un déluge de crimes et de vices dans cette société. D'avoir une si grande accumulation et augmentation de connaissances, mais qui n'est pas une connaissance qui est selon Dieu, mais qui est une connaissance qui est une folie devant Dieu. Et donc cette connaissance qui est une folie devant Dieu, nous devons la retrancher, ne pas permettre à ces choses de rentrer dans notre maison, de rentrer dans notre esprit, dans notre cœur. Nous devons garder nos cœurs, garder la venue et les fenêtres de notre âme, de la vue, de l'ouïe et de l'odorat. Quoique, on sent rarement ce qui sort de l'Internet. Donc ça, il n'y a pas trop de danger. Mais la vue et l'ouïe, ce sont des fenêtres primordiales à travers lesquelles le diable tente sans cesse aujourd'hui dans cette génération de pénétrer pour démoraliser et avilir l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Donc nous avons un haut appel aujourd'hui, frères et sœurs, vis-à-vis de cette perspective de rédemption. Quelle est cette perspective de rédemption? C'est une perspective concrète d'être racheté, d'être délivré. Parce qu'il s'agit ici d'une activité de kidnapping. Si quelqu'un vous rachète de quelque chose d'autre, il va donner un prix, une rançon pour vous délivrer des mains de ce kidnappeur, n'est-ce pas? Il ne va pas payer votre rançon pour vous laisser entre les mains de ce bandit. Donc lorsque nous sommes rachetés, nous sommes délivrés, nous ne sommes pas juste payés, Dieu nous prend. Et donc il nous faut accepter d'être rachetés ainsi, d'être délivrés ainsi. De quoi? Pas de manière incertaine et féerique de quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Nous voulons la rédemption, mais nous ne savons pas de quoi nous voulons être rachetés. Non, des péchés précis et clairs qui caractérisent notre génération présente. Vous les voyez aujourd'hui, les jeunes, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Des fois, j'ai peur qu'ils vont se faire écraser par les voitures. Mais non, ils regardent, ils ont la vue périphérique qui regarde les voitures, tout en continuant à visionner les choses qui détruisent leur moralité. Sans parler de leur vie spirituelle qui est tout à fait inexistante lorsque telle est la pratique de l'homme ou du jeune homme ou de la jeune fille dans leur vie de tous les jours. Donc nous voyons ces choses-là qui sont vraiment le caractère extrême de cette génération Internet qui a l'Internet à portée de main et qui s'en détruit à travers cet accès illimité à tous les abus et les excès de cette connaissance inique qui a été multipliée. Donc nous voyons cela, nous voyons ces choses absurdes, mais il nous faut faire attention de ne pas répéter l'erreur, quand bien même dans une proportion relativement inférieure. Si c'est la même erreur, cela nous mène à la même fin, au même résultat, ce qui est la perdition. Parce que si nous ne gardons pas notre cœur sera un autre que Dieu. Et donc nous voulons incliner nos oreilles à la parole de Dieu, pour mettre en pratique sa parole, pour garder sa parole dans notre cœur, de peur que nous éloignions des commandements de Dieu. C'est si facile aujourd'hui. Je ne dirai pas le nom, mais vous avez si vite fait de vous perdre dans les méandres d'une série illimitée de possibilités technologiques, de visionnage. Mais nous voulons pratiquer, pas simplement entendre, mais serrer dans notre cœur d'une telle manière que nous pratiquons la parole. Que dit-il? Verset 2, « Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi, dit-il à Dieu, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » C'est presque une déclaration prophétique. Où est la difficulté? Il a su quelle était la difficulté. Parce que lorsqu'il était dans son temple royal, dans son palais royal, David, le roi David, il a regardé, il a vu et il a observé cette femme dénudée, Bathsheba. Et maintenant il dit, c'est fini cela. Le Seigneur, je lui ai donné mon cœur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Je prendrai garde à ma voix. Selon quoi? Selon ta parole. Vous voyez ici comment il lit toutes ces choses. Comment Dieu lit toutes ces choses à travers l'esprit d'inspiration. Quand viendras-tu à moi? Quand est-ce que nous nous posons des fois cette question? Dieu, où es-tu? Il le dit ici, le psalmiste sous l'inspiration. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison et j'aurai ainsi l'assurance que Dieu est avec moi, que je ne suis pas séparé de Dieu parce que je fais la volonté de Dieu, je mets en pratique la parole de Dieu. Je garde serré contre mon cœur sa parole. Afin de ne pas pécher contre toi. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. J'ai en haine la conduite des transgresseurs. Elle ne s'attachera point à moi. J'en serai séparé. Ces choses-là n'auront pas une influence sur moi. Je ne permettrai pas. Tel est le langage de l'enfant de Dieu qui a décidé d'être illuminé par la parole de Dieu et par sa sainte volonté. Et donc, puisse donc, frères et sœurs, à la lumière de toutes ces choses que nous avons méditées aujourd'hui et contemplées, puisse la prière de notre cœur s'accorder avec les paroles suivantes du psaume 130. Psaume 130, le psaume entier. Ô Éternel, je t'invoque des lieux profonds. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Éternel, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'ai attendu l'Éternel. Mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon espérance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les sentinelles n'attendent le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donc lorsque nous faisons véritablement une cure de tous les excès de l'Internet et des nouvelles technologies avec leurs dangers, nous ferons l'expérience des versets 5 à 8. De s'attendre à l'Éternel plutôt que de remplir tout notre temps d'activités vaines et futiles. Lorsque nous nous attendons au Seigneur, lorsque nous mettons vraiment notre foi en lui, alors nous saurons que nous avons sa miséricorde et que nous avons la rédemption en abondance auprès de lui. Lorsque notre attente est non pas vers un moment d'excitation, un moment de divertissement, un moment de relaxation, tel que nous nous y sommes peut-être accoutumés en ces derniers jours du temps de la fin de cette génération Internet. Lorsque notre attente n'est pas vers ces choses-là, mais que notre attente est vers Dieu, vers Jésus. Lorsque notre attente de Jésus est telle que nous l'attendons plus que les sentinelles n'attendent le matin, avec une telle patience, une telle disposition à attendre Dieu pendant de longues heures, alors nous ferons cette expérience qui est ici exprimée. J'ai attendu l'Éternel, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon espérance en sa parole. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Amen.